Les controverses du village. Le podcast du webzine des fictions européennes et francophones. C'est le 29 octobre 2008, alors qu'il recevait le National Television Award du meilleur acteur, que David Tennant annonça en direct qu'il allait quitter Doctor Who à l'issue des 4 épisodes spéciaux tournés et diffusés en 2009. C'était nécessaire si l'équipe ne voulait pas que ce soit un tabloïd qui dévoile la nouvelle, car les castings pour trouver son successeur étaient sur le point de commencer. Mais du coup, ce sont 14 mois qui ont passé entre cette annonce et la diffusion du dernier épisode, dans lequel David Tennant interprétait le Docteur. Un délai interminable qui donne une petite idée des attentes immenses à la hauteur desquelles cet épisode allait devoir s'élever. D'autant plus que peu avant David Tennant, Russell T. Davis avait lui aussi fait savoir que 2009 serait sa dernière année. The End of Time, c'est le titre de ce double épisode qui marque leur départ, mais aussi celui de Julie Gardner, allait donc incarner la fin d'une ère commencée en 2005, lorsque Davis ramena le Docteur sous les traits de Christopher Eccleston. La réception de l'épisode a été très diverse, et il ne faut pas aller plus loin que sur les forums du village pour s'en rendre compte. Alors The End of Time a-t-il été une apothéose ou un pétard mouillé? C'est la controverse d'aujourd'hui. Avec moi pour en débattre, les deux rédacteurs du village, Émilie Flamand.
Bonjour.
Et Dominique Montet.
Bonjour.
Alors, on va commencer par Émilie, honneur aux femmes. Il me semble avoir compris que tu n'étais pas très fan de The End of Time.
Ben, disons que The End of Time, il y a plein de bons points, il y a plein de petits moments qui sont absolument magnifiques. En l'occurrence, moi j'adore toutes les scènes avec Wilf. Parce que c'est juste des purs moments d'émotion, que ce soit la scène dans le café ou la scène dans ce truc à double porte là où il y a juste ce magnifique Wilf, It's My Honor. Et ça j'adore, ça j'adhère complètement. Il y a plein d'autres bons points, mais moi j'ai un gros problème sur cet épisode, c'est que je trouve qu'il n'a aucune structure, il part dans tous les sens, il y a 4 bouts indépendants en fait. Et on a l'impression que Davis a voulu y mettre. Il y a plein d'idées qu'il avait envie d'explorer, et il les a explorées, mais de façon complètement décousue. C'est-à-dire que pour moi, il y a la première partie sur le Master, qui est le retour du Master, avec sa résurrection, qui est accessoirement, je trouve, complètement ridicule. Le Master en lui-même. Après, il y a les Time Lords qui débarquent. Et là, on fait « Waouh, les Time Lords !» Et on passe une demi-heure à peine sur eux. Et après, il y a on sait qu'il va mourir, alors maintenant il va faire la tournée d'adieu. Et hop, on fait la troisième séquence. Donc pour moi, c'est vraiment complètement coupé et ça dilue complètement tous les effets qu'aurait pu avoir cet épisode. En grande partie, c'est ça, on va dire. Ouais, je suis reproche.
Dominique ?
Alors moi, je suis plus mitigé qu'Émilie sur le sujet. J'étais loin de trouver ça bordélique, en fait. C'est surtout qu'on ne peut pas en vouloir en fait à Russell T. Davis de donner le maximum de ce qu'il peut sur le dernier. Pour lui, ce n'est pas un dernier épisode, c'est un baroud d'honneur. Et il a envie de servir à David Tennant une sortie la plus merveilleuse qui soit. Alors évidemment, il fait des erreurs. Il fait des erreurs parce que, en fait, le gros défaut du double épisode, c'est sa première partie. La seconde partie est très chargée en émotions, très riche. Il y a des confrontations qui sont vraiment intéressantes, mais la première partie, elle part déjà sur un prologue qui méritait un développement d'épisode à lui tout seul. C'était le personnage de l'ex-femme de Saxon, qui est donc le maître était Saxon dans la troisième saison. J'espère que vous avez déjà vu toutes les saisons avant d'écouter le podcast, parce que sinon vous allez vous maudire.
Tout de suite, c'est un crime de se spoiler sur Doctor Who, foi du village.
Et donc, rien que ça, typiquement dans une saison standard du Docteur, il y a toujours un épisode qui n'est pas centré sur le Docteur. Moi, j'aurais vu clairement un épisode centré sur l'ex-femme de Saxon, montrer les conséquences de ce qu'elle a vécu et montrer par une surprise, par une pirouette, que tout mène vers la résurrection du maître. Et là, non, parce que moi, si j'en veux à quelqu'un, réellement, c'est pas à Russell T. Davis. Russell T. Davis, moi j'ai l'impression qu'il a fait avec ce qu'on lui a donné. C'est plus à David Tennant d'avoir annoncé et d'avoir réclamé de faire une demi-saison, une saison de spéciaux. et en plus d'annoncer derrière qu'il s'en va. Donc c'est plus une demi-saison de spéciaux, c'est un baroud d'honneur, c'est une tournée d'adieu. Et du coup, ça donne un côté bancal. T'as l'impression que Davis a essayé de faire une saison, mais condensée sur 4 épisodes, dont en gros 5 épisodes, dont 3 qui sont des l'honneur de base.
Bon, je crois pas que ce soit vraiment la faute de Tennant pour le coup, parce que ce concept-là, la manière dont la fin de cette époque de la série c'est décidé, elle s'est décidée d'un commun accord entre Davis, Julie Gardner et David Tennant sur le tournage du dernier épisode de la saison 2. Ils se sont dit, ce qui est bien, c'est qu'ensemble on fasse 3 saisons, et après il faudrait que la série elle parte un petit peu de l'antenne quelque temps, donc on va faire juste 2-3 spéciaux. Les 2-3, c'est devenu 5 après. On va faire 2-3 spéciaux et voilà, et ce sera fini. Et ensuite, il y aura une nouvelle équipe qui commencera pour la saison d'après. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on se rend compte aussi quand on voit comment Russell T. Davies a abordé l'écriture, que dans sa tête, il avait réfléchi à ce qui allait se passer dans la saison 2, dans la saison 3, dans la saison 4. Et que mine de rien, les spéciaux derrière, c'était resté une feuille blanche. Et que du coup, la saison 4 se termine, il se retrouve, et il a quelques mois devant lui, il faut qu'il conçoive les spéciaux, il faut qu'il fasse Torchwood Children of Earth en même temps, et il faut qu'il remplisse cette page blanche, et il faut qu'il, effectivement, en fait, en plus la page s'est développée, c'est devenu 5 épisodes, dont un qui était filmé à la fin de la saison 4, donc qui est déjà prêt. Donc mes 4 épisodes à faire, sur une année, c'est quand même plus que prévu, et le concept initial c'était quand même qu'il n'y ait pas d'épisode de Doctor Who du tout pendant une année entière, entre Noël 2008 et Noël 2009, il devait y avoir 0 épisode. Et donc voilà, il aborde les spéciaux sont légèrement transformés effectivement pour devenir une mini-saison avec plein de plans avec lesquels ils ont jonglé. Moi, c'est toujours ça que je trouve incroyable, parce que cette série se produit dans un chaos permanent. Dans un premier temps, Russell T. Davies, son envie initiale, c'était de finir sur un épisode isolé, de seulement une heure, sur un petit vaisseau perdu dans l'espace, et une petite famille de rien du tout qui serait pas importante, et le docteur se serait sacrifié pour les sauver eux. Et puis finalement, le projet monte, la BBC veut un peu plus d'épisodes, parce que d'un seul coup, ils se disent « Mais comment ça, notre série qui fait le plus d'audience, on l'arrête pendant un an? On est complètement malade ou quoi ?» Et puis il y a aussi les attentes, c'est vrai, à la fois de David Tennant et de Julie Gardner, qui lui demandent quelque chose d'un peu plus gros, qui amène petit à petit à cet épisode qui effectivement prend une ampleur de plus en plus importante avec le temps. Et pour répondre à ce que vous avez dit, je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis, le gros point faible de The End of Time, c'est la première partie, parce que c'est vraiment un épisode, si en plus on le regarde tout seul, ça tient pas debout, enfin... C'est que c'est ça rapide. Rassemble trop de choses.
Ça perd trop de choses.
Il y a trop de choses qui, à mon avis, sont assez ratées en plus. La résurrection du Master est ratée. Le côté Skeletor du Master, c'est raté. C'est complètement ridicule.
Et puis l'affrontement Highlander, quand même.
Ah oui, les éclairs. Et le comité, quand il grille là, les deux espèces de bonhommes dans leur, dans leur baraque à frites, là, quand ils finissent en squelette, ça, c'est juste ridicule.
C'est quoi. Super
c'est franchement ridicule. Ouais.
Et on sent que sur cet épisode aussi, enfin l'un des problèmes aussi, c'est vraiment que je pense que Russell T. Davies bataille. Dans son esprit, il a le modèle de qu'est-ce que ça doit être un épisode spécial qui passe à Noël. Et puis il se retrouve à devoir écrire ça, et puis c'est pas du tout un épisode spécial de Noël qu'il y a dans son esprit. Et les deux formats bataillent, et il fait pas vraiment de choix, et du coup on se retrouve avec ça. Voilà. Moi je suis par contre beaucoup plus enthousiaste sur la deuxième partie. Et j'avoue qu'en plus, et pourtant Dieu sait que j'ai publié une review super enthousiaste à chaud le lendemain de la diffusion, mais plus le temps passe et plus je revois l'épisode, plus je suis enthousiaste sur cette deuxième partie. Il me semble qu'elle gagne beaucoup avec le temps et les révisions, contrairement d'ailleurs à pas mal des autres finales de saison de Davis. Je trouve que des finales comme les finales de la saison 4 par exemple, qui sont super agréables à regarder dans l'instant parce que c'est des gros fantasmes de geek sur l'écran, avec le temps on les revoit, du coup on est moins attaché à tout ce qui nous fait sauter au plafond, et on voit qu'il y a plein de trous et de trucs dans le scénario qui collent pas, que c'est vraiment branlant, et finalement The End of Time est beaucoup plus maîtrisé que ça, notamment en termes de continuité thématique. Le fait que finalement tous ces personnages veulent la même chose, et que c'est un combat général pour la survie et pour l'immortalité qu'absolument tous les personnages dans lesquels tous les personnages sont lancés, y compris le docteur lui-même, ce qui était finalement le rebondissement intéressant de cette histoire.
Moi, je suis assez d'accord sur ce point-là, sur la thématique globale et cette unité qu'il y a dans ces personnages. Enfin, il y a plein de points de ce type-là. De toute façon, le Wilf, qui est ce vieil homme qui se dit lui-même en fin de vie, etc., qui veut sacrifier. Enfin, ce miroir du docteur que fait Wilf, c'est juste très très bien fait et très finement fait. C'est pas lourd, c'est vraiment tout en délicatesse. Par contre, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que cette fin justement d'épisode, le début, on l'a dit, moi je trouve aussi que la façon dont voilà, il le ramène, la résurrection qui vient super vite, etc., c'est juste, on n'a pas le temps, allez hop, on fait ça en 10 minutes. Mais je trouve que sur les Time Lords, c'est pareil, quoi. Merde, quoi, c'est le retour des Time Lords. Mais c'est quand même, moi qui connais très peu l'ancienne série, qui est pris avec Russell T. Davis, les Time Lords, ce qui s'est passé sur Gallifrey avec la guerre contre les Daleks, la guerre du temps, mais c'est un truc qui me semble monumental, quoi. C'est juste un élément énorme de cette mythologie. C'est un point qui est... Tu fantasmes, tu te fais des théories là-dessus, tu te demandes ce qui s'est passé. Là, on te balance que les Time Lords, en fait, sont vivants, sont dans une boucle temporelle, etc., que c'est le docteur qui a provoqué ça, et qu'ils reviennent, et tu boucles ça en 40 minutes.
Ouais, mais le problème, c'est que... Enfin... Je pense qu'après, t'es rattrapé par les moyens.
Oui.
C'est que la guerre du temps, à mon avis, il y a une raison... Alors déjà, c'était un bon moyen pour Davis de repartir sur quelque chose de propre quand il a repris la série, de dire il y a eu une guerre du temps, il n'y a plus de Time Lord, tout ça. Bon. Mais c'est surtout que la montrer, c'est infaisable. Enfin, il n'y a pas les moyens financiers.
Oui. Ah oui, pour, oui, ça, je suis d'accord.
Donc le fait qu'ils reviennent, que ça soit une menace et que finalement ils soient réexpédiés, moi je trouve ça... Enfin, la menace est tellement énorme. C'est clair que s'ils viennent, s'ils arrivent, le docteur ne peut pas se battre contre eux. Il ne peut pas les éliminer. Ouais. Ou alors une énorme pirouette, comme Davis nous habituait souvent dans ses fins de saison, de s'en sortir par un petit truc métaphorique, très joli, très bien fait, mais qui globalement tu te dis « Ouais, bon, quand même, peut-être pas exagéré non plus. » Là, ça aurait été trop énorme, parce que la menace est beaucoup plus forte presque qu'un million de Daleks. Moi, je trouve ça assez normal. C'est une menace qui plane, c'est une menace qui se matérialise et puis qui finit par repartir presque aussi vite qu'elle est arrivée, parce que si elle se déclare, si elle arrive, c'est totalement incontrôlable et puis tu peux pas t'en sortir. Clairement, en termes d'écriture, je vois pas comment tu peux te dire « Bon, alors les Time Lords y reviennent vraiment, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, t'as Gallifrey qui a pris la place de la Terre... On a déjà fait le coup de « on supprime une année qui s'est déroulée pour... » On va peut-être pas le refaire non plus. Pour moi, il est logique, cet épisode. Le problème, c'est qu'il souffre de son énorme problème de rythme de la première partie. Cette envie qu'a Davis de faire une sorte de combat épique entre le docteur et le maître, alors que jusqu'ici, on était plus dans une logique de combat... mental. Et là, d'un seul coup, ils sont dans un terrain vague, l'autre il balance des éclairs, t'as le docteur qui arrive, qui a la veste qui flotte, tu t'attends à ce qu'il sorte une épée et qu'il dise il peut en rester qu'un. Forcément, c'est choquant, tu t'attends pas à ça, c'est pas Doctor Who à ce moment-là, c'est pas Doctor Who, c'est Highlander 5.
Et par rapport au Time Lord, moi je pense que ce que tu as expliqué, les éléments que tu as donnés, pour moi c'est la raison précise pour laquelle il y a juste exactement pile poil la dose qu'il faut de Time Lord dans l'épisode. Parce que, mais oui, mais il y a une telle somme de fantasmes. On a tellement fantasmé les Time Lords, leur magnificence, Gallifrey magnifique, etc., leur puissance, leur tout, que rien, même un blockbuster hollywoodien à 200 millions de dollars, on le verrait, on serait déçu exactement de la même manière quand George Lucas il est arrivé avec ses millions de dollars pour nous faire les épisodes de la guerre des étoiles d'avant et la guerre des clones et tout ce que vous voulez. On dit mais c'est nul en fait, parce que la somme de ce qu'on avait imaginé pendant toutes ces années là est juste pas atteignable. Je veux dire, chaque fan s'est fait son propre film qui est grandiose. Ça fait qu'il y a un film différent de la guerre des Time Lords dans la tête de chaque fan, donc c'est impossible de satisfaire tout le monde à ce niveau là et donc je pense qu'il fallait juste ce soupçon, en donner juste assez, éviter aussi, parce qu'il faut quand même dire que les Time Lords dans l'ancienne série sont quand même absolument ridicules. du début jusqu'à la fin. Enfin,
les administrations, en fait.
C'est ça, et puis enfin, leurs costumes grotesques, leur vocabulaire machin. Enfin, ouais. Soit il faut tout changer, mais c'est plus les Time Lords. Soit il faut réussir à garder ça, mais enfin, pour que ce soit pas ridicule, il fallait vraiment doser ça au plus près. Je pense que Russell T. Davies avait lui-même jamais imaginé qu'il remettrait les Time Lords dans la série.
Non, il le dit bien.
Il y a l'idée qui lui vient, et puis il résiste, il n'est pas sûr que c'est une bonne idée, et c'est des gens autour de lui qui vont le convaincre que si, en fait, il faut y aller, et puis finalement, il s'approprie l'idée, il trouve qu'effectivement, c'est ça que je trouve formidable, c'est une super bonne façon de conclure son passage sur Doctor Who, qui a effectivement été très marqué par la guerre du temps, ses conséquences, le deuil du survivant que le docteur porte depuis son retour en 2005. Et donc pour moi, c'est vrai que ça boucle la boucle de manière assez formidable, et voilà, avec juste ce qu'il faut pour que les Time Lords ils continuent d'avoir la même aura et la même puissance. Ils ne sont pas diminués par l'épisode, et qu'on reparte frustré. Pour moi, c'est la preuve que le dosage est juste, en fait.
Et tu le dis toi-même, et tu peux l'appliquer au final tel qu'il est, sans parler des Time Lords. C'est tous les fans, sachant un an et demi à l'avance que David Tennant allait partir, que Russell T. Davies allait partir, tous les fans se sont fait le final dans la tête. Tous les fans s'imaginaient quelque chose. Et forcément, quand il arrive avec son histoire du retour du maître, du retour des Time Lords, et forcément, il va décevoir des gens. Il ne peut que décevoir. De toute façon, de la façon dont ça s'est construit, du départ, des spéciaux, la tournée d'adieu, finir par un film. Je pense que c'est un affront fait à beaucoup de fans de série de faire un film de sa série. Et là, en l'occurrence, c'est un film. C'est Doctor Who, le film. Tous ces trucs-là, moi je dis quand même chapeau Russell T. Davies, parce qu'il a réussi à mettre des moments de grâce dans son final quand même. Rien que pour les moments entre le docteur et Wilf, le double épisode, il a raison d'exister. Mais rien qu'avec tous ces points de départ, enfin, il s'est mis une pression monumentale et il pouvait que se planter. Et je trouve que du coup, c'est pas si planté que ça.
Par rapport à ses attentes, moi, pour donner un exemple, j'ai lu un truc, je trouve ça absolument formidable. Dans le mauvais sens du terme, ça va se fracasser la tête contre les murs. C'est sur un forum, je lis un post d'un fan. C'est à propos de l'épilogue à la fin, quand il va revisiter tous ses anciens compagnons, et en fait il dit « Oh, mais on nous avait annoncé le retour de tous les compagnons, et en fait ils sont là que pour une petite scène à la fin, je suis super déçu. » Mais chérie, on n'a rien annoncé à personne. Il y a des paparazzi qui ont réussi à les choper sur le tournage, et du coup ça a filtré sur internet, mais ça fait des mois qu'ils essayent de cacher que les compagnons y reviennent. Donc c'est vraiment l'illustration totale du fait que le principal problème de cet épisode, c'est pas ce qu'il est en lui-même, que ce qu'il est par rapport aux attentes que chacun avait construites.
Moi là-dessus, le seul point qui me gêne, en fait, c'est que je suis d'accord que les timers, tu pouvais pas doser, etc. Mais je reste quand même dans le sens où cet épisode, il a voulu trop en mettre pour moi. Voulu trop en mettre, et au bout d'un moment, bah, ça tue le truc. Pour moi, c'est le même principe que sur la tournée d'adieu. La scène avec Wilf à la fin, dans cette boîte en verre, elle est tellement magnifique, mais qu'il fasse la régénération directe derrière, quoi. T'étais dans un pur moment, mais d'émotion, mais avec ces élans du docteur qui se bat contre sur cette fatalité, sur le fait qu'il doit mourir, que ça doit être Wilf, etc., qu'il veut pas, que c'est pas juste. Ce moment-là, mais il est splendide. C'est le moment où le docteur craque, où le moment où le docteur est le plus humain, tout compte fait, vu que c'est ce côté où il rejette ce destin, où il rejette cette fatalité, et cette... Oui, c'est très bien qu'il va mourir, mais il le refuse. C'est le plus beau moment, je trouve, dans ce final. Et derrière, et la régénération est superbe aussi, cette façon qu'il a avec le « I don't want to go », c'est juste magnifique. Et entre deux, en fait, je trouve que tout compte fait, la tournée d'adieu fait replonger. Parce qu'il y en a qui sont très belles. Il y a les scènes avec Rose qui est tout en délicatesse. La scène avec Donna qui est très bien. La scène avec Jack, bon... j'ai vu dans les confidential, ils le justifient un peu en disant qu'il voulait montrer que Docteur pardonnait à Jack aussi son geste, etc. Enfin, qu'il avait plus ou moins sa bénédiction, qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Ouais. La scène avec Martha et Mickey, très franchement... Oui, pour boucler l'histoire de Martha.
Il veut juste boucler.
Si ça n'avait pas un intérêt.
Puis il fait un geste vers le fan à ce moment-là. Il pense faire un geste vers le fan. C'est maladroit, mais il pense faire un geste vers le fan en disant bah voilà, le docteur, il finit par voir tous ceux qu'il a traversé, dont il a traversé la vie. Il leur donne un petit, une petite chance.
Les dernières actions qui.
Ouais, je pense que voilà, c'est là il fait un.
Fait plus que leur donner une petite chance, il leur sauve concrètement, mais même il leur sauve la vie.
Il leur sauve la vie.
Il sauve la vie de Martha, il sauve la vie du fils de Sarah Jane, et donc la vie de Sarah Jane, parce que si son fils mourait, alors que c'est autour de ça qu'elle a structuré sa vie depuis des années, il sauve la vie de Jack, qui est suicidaire dans c'est plus métaphorique, mais qui est suicidaire, qui est toujours déprimé. Il lui dit : je te pardonne, moi le docteur, je te pardonne, et regarde. Je te donne de quoi passer une bonne nuit.
Et en passant, il nous fait une petite scène avec le bar rempli d'aliens pour revoir tous les aliens. Oui, c'est purement du.
Et moi, je sais que.
Dommage, mais bon.
Que sur ça, enfin, moi, l'émotion de, pour le coup, de la scène avec avec Wilf dans le où il le sauve et jusqu'à enfin à la chaîne de la raison. Moi, l'émotion, elle est portée dans toutes ces scènes-là. Je les ai de toute façon regardées. Entre mes larmes à chaque fois, sauf la scène de Jack qui me fait exploser de rire à chaque fois au milieu. Donc moi, je trouve ça.
Moi, c'est pareil, je suis un petit peu comme Emily, j'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant la scène, mais aussi parce qu'elle est extrêmement bien construite et parce qu'elle arrive après tout ce qui s'est passé. Le coup du fait qu'il tape 4 fois sur la porte, si on nous a pas bassiné avec les quatre coups pendant tout l'épisode. Elle n'a pas la même force, c'est pareil. On la trouve belle et
puis il y a cette joie juste émouvante. Avant aussi, ouais, parce voilà, que ce côté « je ne suis pas mort ».
Je ne suis pas mort malgré ce truc énorme qui s'est passé. Quoi. Le maître qui prend la place de tous les êtres humains, les Time Lords qui reviennent. Je pense que la scène, elle est belle, émouvante et forte parce qu'il y a tout ça avant aussi. Si tu fais juste un épisode avec Wilf et le docteur, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même force. Alors, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, c'était maladroit, c'est maladroitement amené, c'est mal construit dans sa première partie, c'est surtout très mal rythmé. Mais après, il y a une vraie utilité à tout ça, parce que ça sert ça. Il le fait déjà au terme de la saison 4, Russell T. Davis, où t'as une sorte d'explosion, de combat, c'est très fort, c'est très émotionnel, et ça se termine sur quelque chose d'absolument... Tu parlais des finaux qui n'étaient pas toujours justement très, très réussis ou faciles à revoir une deuxième fois. Pour avoir revu une deuxième fois le final de la saison 4, c'est vrai que c'est bancal, mais alors cette fin du personnage de Donna, je ne sais pas comment tu peux rester insensible à ce qui arrive à cette fille. Et là, quelque part, tu ne peux pas rester insensible à ce qui se passe au docteur, et c'est aussi grâce à tout ce qui se passe avant. Et c'est pareil pour Donna, c'est aussi grâce à ce qui se passe avant que t'es pris aux tripes. Donc, moi, je trouve pas si mal que ça, ce double film.
Pour rebondir sur un point que t'as évoqué, donc j'ai relu The Writer's Tale récemment, un petit peu pour préparer ce débat.
Pour la 7e fois.
Exactement, non, pas la 7e, juste la 3e. Je suis obsessionnel, mais pas encore psychopathe, c'est la différence. Et j'ai trouvé qu'il y avait une anecdote super marrante. En fait, tu t'expliquais que The End of Time, à bien des égards, c'est finalement Doctor Who le film, plus qu'un épisode traditionnel de la série. Et il y a quelque chose qui est super marrant, plutôt au début de The Writer's Tale, donc il est plutôt au début de l'écriture de la saison 4.
Avec Children of Force en parallèle.
Maintenant, c'est avant, c'est vraiment au début de l'écriture de la saison 4. Et il me semble que c'est en revenant de la projection de lancement de l'épisode de Noël avec Kylie Minogue. Donc on est quand même longtemps avant tout ça. Et il explique qu'il n'a pas du tout apprécié de voir cet épisode sur grand écran, parce que c'était de la télé, et que la télé sur grand écran, c'est pas bien. Et que si jamais on faisait un film Doctor Who, ça ressemblerait pas à ça. Parce que le cinéma et une série télé, c'est deux médiums complètement différents, et que voilà, que du coup il suffit pas de mettre un épisode de série sur grand écran pour que ça devienne un film. Et il explique au journaliste Benjamin Cook que, par exemple, si on fait un film Doctor Who, il y a des choses qui sont qu'on prend pour j'ai le mot anglais qui vient, qu'on take for granted,
pour argent comptant
dans la série, mais qui serait obligatoirement le point central d'un film. Et il dit un exemple. Dans la série, le Docteur Who, il a jamais d'armes et c'est un acquis pour nous tous. Par contre, si jamais on fait un film qu'on amène dans le terrain des blockbusters hollywoodiens, cette question-là, elle devient centrale. Pourquoi est-ce que le docteur, il a une arme ou il n'en a pas ? Enfin, pourquoi il n'en a pas ? Et cette question-là, elle devient le nœud dramatique du film Doctor Who. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans The End of Time ? Eh bien, c'est ce nœud dramatique-là. Est-ce que le docteur est capable de prendre une arme et de tuer pour sauver... pour sauver la Terre et pour se sauver lui-même ou pas. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement cette réflexion qu'il y a eu sur le film Doctor Who, qu'à mon avis ils ont discuté et qu'à mon avis ils ont décidé de pas faire, se retrouve vraiment dans The End of Time. Et pour moi, c'est, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça c'est la preuve définitive, The End of Time c'est Doctor Who le film.
Et cette scène est d'ailleurs extrêmement belle aussi, je trouve, dans ce vaisseau, avec justement, c'est le lien entre ces deux parties, entre le maître et les Time Lords. C'est vraiment le moment où il a dû fuir la Terre, où il y a déjà un chaos pas possible et on va en remettre une deuxième couche. Et il y a juste cette pause et il y a ce moment qui est totalement gratuit, hein, cette réflexion de Will sur est-ce que les morts aussi ont été transformés. Et ce moment, je le trouve d'une poésie. Enfin, toutes ces scènes avec Will, je trouve que c'est une sorte de réflexion, de sagesse du docteur, etc. C'est vraiment le seul avec qui il peut avoir ce degré d'échange, en fait. Il y a tous ses compagnons qu'il a pu avoir avant, mais c'était dans une énergie, c'est dans une dynamique. Et là, on se pose, et c'est cette réflexion qui prend le sud. Réflexion avant sa mort, réflexion parce qu'il le sait, c'est annoncé, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même le point le plus réussi de cet épisode. Clairement, ça, là-dessus, il n'y a pas de débat pour moi. C'est clair que c'est splendide. Je voudrais juste, moi, deux secondes aussi, c'est revenir sur juste la régénération. Je sais pas, donc je crois qu'on a tous regardé les Confidential aussi, avec cette façon, ce point dont ils avaient abordé avec Tenante, comment se termine cette régénération, ce I don't want to go, comment ils le font, à quel degré ils le font d'émotion. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est léger, est-ce qu'on reste sur le côté un peu stoïque, ou est-ce que vraiment il finit mais en larmes et le côté complètement craquage, quoi.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans le Doctor Who Confidential, ouais, qu'ils ont tourné 4 prises en fait de ce dialogue, et graduellement le premier, le docteur le dit froidement, et dans la quatrième prise il explosait en sanglots en le disant, et ils ont gardé la troisième, celle où il est au bord de craquer, mais où il se retient, où il craque pas.
Voilà, et ce point là je trouve que, surtout ayant vu après ce qu'ils ont tourné, enfin les différents degrés, je trouve que le choix est superbement fait et juste magnifique par rapport au personnage, quoi. C'est clairement celui qui correspondait le mieux. Et je pense qu'en effet, c'était nécessaire de faire comme, enfin, selon leur méthode, c'est-à-dire de voir, de tester les différents points, et ça saute aux yeux. C'est juste mesuré, c'est juste parfait. Et Tenant le dit qu'il ne le voyait pas du tout craquer complètement. Et ce petit point, pareil, est absolument magnifique. Surtout qu'après, bon, la régénération accélère, le TARDIS qui est détruit. Il y a un magnifique, aussi niveau musical, le Requiem qui est à la fin. Il y a cette espèce de Requiem qui est absolument splendide, qui accompagne très bien cette régénération. Et avec derrière l'énergie du nouveau docteur et son Géronimo, bon allez, on lance le nouveau cri, avec cette façon qu'il a de se toucher et autres, encore ce côté très énergique, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Ah ouais, on se crache, on part dans autre chose. Et là, il y a vraiment ce moment encore d'émotion qui monte avant de repartir sur une dynamique et qui est très très bien jouée.
Ça permet de souligner aussi à quel point dans The End of Time, l'interprétation est juste incroyable, quoi. David Tennant, il est fantastique du début jusqu'à la fin. Bernard Cribbins dans le rôle de Wilf est formidable. C'est juste une composition incroyable. John Sim est absolument formidable dans les quelques scènes qu'il a où il a vraiment à jouer, la confrontation avec le docteur au tout début.
Où le docteur réalise que les tambours sont réels en fait dans sa tête.
Et puis Timothy Dalton. Honnêtement, moi cet acteur, je le connais pas vraiment. Je sais qu'il a joué James Bond il y a longtemps.
C'était pas les meilleurs.
Et ben voilà, mais quelle claque, c'est incroyable. Le type, il apparaît à l'écran et tout s'arrête, quoi.
Mais ça joue beaucoup sur la voix, et je trouve que là aussi, l'utilisation de la voix off de Dalton au début, ça donne un côté, moi je trouve, complètement mystique. C'est vraiment mystique, c'est-à-dire que bon, et en plus ça accentue parce qu'il y a ce langage aussi qui est très rapproché, je trouve, de la légende, du conte. On a vraiment l'impression qu'on raconte une histoire des milliers d'années plus tard. Il y a cette première scène qui est dans une église, donc il y a ce côté foi qui apparaît, et avec cette voix off qui est très posée, très lente, lui qui a quand même, il faut avouer, il a une voix incroyable. C'est vraiment ça. Tu n'entends que lui, tu nous, enfin, ça prend tout le truc, quoi. Et ça, je trouve que ça a, pareil, un impact énorme sur le premier épisode, qui va continuer la narration, etc., jusqu'à arriver sur le moment où on le voit. Et ça, c'est très très bien joué, je trouve. C'est frustrant parce qu'on se dit, les Time Lords, on n'arrive que dans la deuxième partie, donc pour moi, mais cette voix off est extrêmement bien faite et apporte ce côté mythologique à l'histoire et à l'épisode, parce que clairement, c'est un épisode qui va être dans les annales, quoi. Le dernier de Tenant, le dernier de Russell T. Davis, c'est un monument. Et ça te joue très bien sur ça.
T'as bien aimé, en fait.
Non, je trouve que, si tu veux, moi, ce qui me frustre le plus, c'est que j'adore Torchwood, et le Children of Earth, je le trouve magnifiquement écrit. Bon, je pense que c'est pareil, dans ma critique, ouais,
Tu peux pas te permettre de faire ce qu'ils ont fait dans
Children of Earth. Non, mais la structure qu'il a réussi à claquer dans Children of Earth, qui a pourtant été une écriture à trois personnes, en parallèle, etc., comme il l'explique aussi dans Reader's Tale, il a une structure et une forme, donc oui, c'est vraiment la structure qui est vraiment millimétrée et qui, je trouve, est bien arrêtée et bien maîtrisée. Et sur le Docteur, ou ce final, je trouve que c'est un point qui me touche beaucoup, ces structures dans les épisodes. Et Russell T. Davis l'avait dans plein de choses avant, dans plein d'autres épisodes, dans Midnight, dans le huis clos. Cette structure, ce millimétrage, il l'a aussi, je trouve.
Mais tu racontes pas la même histoire, c'est tellement minimaliste. Non, mais là, il a voulu tellement mettre
qu'il perd cet aspect-là. Ouais. Et c'est ça qui me gêne.
Comme tu le dis, finalement, il voulait pas tant en mettre que ça au départ, dans le dernier épisode. Ouais. Il avait vraiment envie de maîtriser son truc. Je pense que là, c'est une perte de contrôle. Et encore, moi, ce que je trouve assez génial dans Russell T. Davis, en fait, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit sur le forum par une amie de chez Perdusa, dont j'apprécie beaucoup les critiques en règle générale, mais là, j'étais pas trop d'accord avec elle. C'est cette façon de s'en prendre à Russell T. Davis à la fin, c'est vivement qu'il se barre, j'attends Steven Moffat. Faut pas perdre de vue plusieurs choses. La première chose, si on regarde Doctor Who aujourd'hui, c'est grâce à Russell T. Davis.
Si Moffat arrive, c'est grâce.
Si Moffat arrive, c'est grâce à Russell T. Davis. Ça aurait été un autre, ça aurait peut-être été très bien, mais le constat est là. Si on regarde maintenant, c'est grâce à lui. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il s'est pas dit dès le départ, j'ai un plan sur la totalité... je sais comment tout va finir dans 5 ans. Tu le vois assez régulièrement, il prend des idées à droite et à gauche, il se construit par rapport à ce sur quoi il est parti au départ. Je pense que dans la saison 3, tu viens de dire si j'ai tort ou si j'ai raison, Sullivan, Emily, il sait qu'il va faire revenir le maître à la fin. Mais il ne sait pas comment. On lui sert un scénario avec une histoire de montre dans il laquelle tu peux enfermer... Oui. L'esprit d'un Time Lord, et il s'en resserre derrière, il rebondit là-dessus. Tac. Il insère le fait que le maître est fou parce qu'il a un rythme dans la tête, les tambours de la guerre, sans arrêt. Il sait pas qu'il va le réutiliser plus tard, et il arrive à le réutiliser en se disant c'est la balise Argos des Time Lords pour revenir. Il a une faculté de s'adapter et d'adapter son univers tout en le gardant cohérent, c'est quand même ça qui est ahurissant, qui dénote un talent mais magistral dans cet exercice.
Il a une capacité formidable à gérer le flux. C'est-à-dire à jongler avec les balles et à tenir les balles en l'air. Et à savoir qu'il a lancé telle balle et qu'elle est toujours en l'air et que si jamais il est toujours là au moment où elle retombe, il sait où tendre la main pour la rattraper. Et clairement, c'est des choses comme ça. Enfin, il le dit lui-même, le fait que le maître entend des tambours. Quand il écrit ça au final, dans le final de la saison 3, Russell T. Davis, il dit, je sais pertinemment à ce moment-là que pour que ce soit bien, il faut qu'on apprenne que c'est concret, qu'il entend vraiment des tambours, etc. Mais concrètement, il ne sait même pas qu'il va... Il ne sait pas pourquoi, et il ne sait pas que lui, il va ramener le maître. Parce qu'encore une fois, si jamais il avait fait le final qu'il avait voulu faire, il n'y avait pas de maître dedans, et on ne l'aurait pas revu sous l'ère Russell T. Davis. Donc, c'est là. Et puis, si jamais la balle retombe et qu'il a l'occasion de la saisir, il le fera. Et il a une capacité incroyable à savoir exactement, point par point... tous les éléments qu'il a introduits dans la série depuis qu'il a commencé, ce qui est super difficile en fait. Enfin, dans la plupart des séries qui arrivent à avoir de maintenir de la continuité, ils ont en plus une batterie d'assistants qui leur rappellent, te rappellent, il y a ça dans... Hein, ouais. Et Russell T. Davis fait ça tout seul, quoi, parce qu'il n'y a pas d'atelier d'écriture dans cette série, il est le showrunner jongleur Et il est assez incroyable.
Et moi, j'avais envie de réagir aussi là-dessus, parce qu'on le voit quand, dans le Winter's Tale, je trouve, il construit très bien, enfin, on voit sa construction, en fait, de l'épisode. C'est-à-dire qu'il sait, depuis le départ, cette phrase qui veut dire que, qu'il veut pour le docteur, soit il want to go au moment de la régénération, ça, il le sait. Il sait aussi qu'il a envie de faire ce tour de tous les derniers compagnons. Donc, il sait qu'il doit, en gros, être mourant, mais pas mourir tout de suite. Donc, on sait qu'on doit arriver à ça. Après, il y a cette histoire du maître, où il rencontre John Smith, et John Smith lui dit qu'il a envie d'être complètement fou dans cet épisode, de plus en plus fou. Alors, Russell Davis, sur l'occasion, il est à fond dessus, ok, c'est bon, ça s'est emballé. Il y a ce côté-là. Après, il y a cette idée des Time Lords qui va débarquer. Il a cette notion de porte qu'il veut reprendre aussi, avec ces deux portes en verre, qui vient en fait de... Oh, j'ai un trou, là. Aide-moi, Sullivan.
Je ne sais plus.
Il y a un truc avec les portes aussi, où c'était un élément où dans le Winter's Tale, en fait, il parle là-dessus en nous expliquant que c'est quelque chose qu'il avait en tête dans un autre épisode. Il l'a déjà placé. Et il le récupère en miroir dans celui-ci.
Je sais plus, mais...
La porte, c'est pas à la fin de la saison 2 hein. Dans l'Institut Torchwood.
Non. Je crois pas. Bon, j'ai un doute. Voilà, on a trouvé la faille. Nous sommes trois et nous n'avons pas réussi à retrouver cette référence. Mais en gros, c'est cette façon qu'il a de construire l'épisode. Et c'est vrai que ça se ressent. C'est ce que moi, je trouvais gênant un peu, c'est cette accumulation d'éléments. Mais c'est vrai que quand on se rend compte que tout le monde fait, il allait placer l'histoire sur le maître quand il a commencé à l'écrire, et que d'un coup, les Time Lords ont débarqué dans l'histoire et il s'est rattrapé quand même sur le coup des tambours d'une façon qui est très bien faite.
Ah, c'est virtuose.
C'est très bien fait. Bon, après, le coup du diamant, etc., ça, moi, j'adhère moins. Je trouve que là, on repart un peu sur un point un peu plus... Bon, allez, on va trouver un petit moyen vite fait pour prendre le contact. Mais le coup des tambours et cette folie du maître qui est en fait due à ces Time Lords qui l'ont torturé et qui, en plus, l'abandonne aussi à la fin, quoi, le rejette complètement, ce point-là sur le maître est très bien fait. Bon, après, il y a à nouveau les éclairs qui débarquent et là...
Là, c'est plus justifié. C'est le moment de l'épisode où ils sont complètement justifiés.
Ah, complètement, ouais. Ça.
Là, oui, mais si tu veux, vu qu'on les a vus avant, moi, j'ai quand même un peu bloqué sur les éclairs. J'avais déjà eu un premier coup de... Oula.
Ah, mais t'imagines, si on les avait pas vus avant, on se serait... What the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe
Il sort des éclairs. Mais là, il n'y aurait pas forcément sorti les éclairs. Il avait moyen, le maître, de faire autre chose pour se sacrifier.
Là, tu as ton intérêt. On peut faire ça.
Mais oui, c'est ça. C'est... Ah ouais, les Time Lords, quand ils sont avec une fuite d'énergie, on va dire, ils lancent des éclairs. Ils se font des bombes de 500 mètres. Ouais.
Pour conclure, peut-être, il y a quand même un dernier point qu'on n'a pas encore souligné sur The End of Time et que je voudrais souligner. Et c'est aussi... aussi un certain désaccord par rapport à ce qui a pu être écrit des fois, et notamment ce qu'effectivement disait Blackie sur le forum, pour lequel c'était encore un épisode de très puéril de Doctor Who. Et moi, je trouve vraiment pas que ce soit le cas, même si effectivement il y a ces éléments festifs de spectacle, certains que je trouve super appréciables. Moi, le combat Star Wars avec Wilf au rayon laser, je trouve ça génial.
Oui, c'est très drôle.
Mais c'est aussi l'écriture, c'est aussi un des gros bons points, à mon avis, de l'écriture de Russell T. Davis et ce qu'il a amené dans Doctor Who depuis qu'il l'a repris, même si c'est une série familiale qui doit faire venir les enfants à partir de 6 ans, c'est le sous-texte et la puissance du sous-texte qui a. Quand même dans la plupart des épisodes de la série, notamment dans The End of Time, au-delà de la thématique de la survie, de l'immortalité qui parcourt vraiment tout l'épisode et tous les personnages, et à côté de ça, ce sous-texte super politique, en faisant revenir Rassilon, un personnage de l'ancienne série qui est une figure mythique des Time Lords, etc., qui était morte, mais que donc. Dont on apprend qu'il a été ressuscité, comme apparemment pas mal de Time Lords ont été ressuscités, mais déjà le maître à la fin de la saison 3 nous disait que les Time Lords l'ont ressuscité pendant la guerre du temps, et donc cette histoire symbolique sur le retour d'une figure politique charismatique vers laquelle on se retourne en temps de crise et à qui on confie tout et qui nous entraîne vers le totalitarisme. Merci Emily. Il est très tôt. et voilà, moi je trouve que ce contenu-là, dans une série qui reste une série quelque part pour enfants, qui passe à un horaire familial, en access prime time, et qui rassemble 10 millions de téléspectateurs, je trouve ça formidable.
Oui,
et
puis même, c'est pas du tout... Moi, j'ai pas ressenti de puérilité, à part bon, dans les moments de combat épique, où là, oui, on sent que c'est Russell T. Davis à 8 ans et demi, et ouais, chouette.
Mais
voilà, des lasers, ouais, il va sauter 50 mètres. Mais ça parle quand même de la mort pendant 2 heures. Mmh. Et pour les enfants, parler de la mort... c'est pas vraiment le but au départ quand tu les mets devant la télé, c'est pas qu'ils disent c'est quoi mourir, dis-moi, il est où mon chien. Donc non, moi je trouve pas que ça soit puéril du tout, quoi. Je voudrais faire une petite parenthèse sur John Sim, qui est un acteur, bon, si vous avez lu mes critiques, que j'adore, mais de manière assez inconsidérée. Et je voulais juste dire que si vous regardez les Confidential, vous apercevrez qu'en plus c'est une excellente patte, parce que il a dû rejouer des scènes à peu près 50 fois dans des costumes différents. Et, bonjour les costumes.
Pauvre gars.
Et jamais tu ne le vois être ne serait-ce qu'un peu lassé. Et je trouve que c'est un acteur formidable, et franchement, l'avoir sur un tournage, ça doit être vraiment un bonheur, quoi.
C'est ça, il faut bien se rendre compte que ces plans incroyables, où il y a 20, 20 mètres habillés tous différents dans une salle qui applaudissent, et ben, il faut que le pauvre John Sim, il s'habille dans le premier costume, il s'assoit sur la chaise avec des fonds verts derrière lui, il fait la scène, il applaudit, il est content, ça dure 5 minutes, pouf, il va en coulisses, il se change, il met la robe rose, les talons, il retourne, hop, il applaudit, etc. Et ça dure une après-midi entière, c'est juste l'enfer sur Terre, quoi.
Et c'est ça. Mais c'est pas que pour cette scène, c'est à dire qu'il le montre, il y a le coup dans l'immeuble là où ils sont tous, où c'est pareil. Alors ils ont essayé de faire une technique avec des masques, mais bon, ils le disent eux-mêmes, ça va bien pour les plans loin.
Il est terrifiant, ce masque.
C'est horrible. Et le cadeau de tournage en plus pour John Smith, ça a été cette photo de toute l'équipe avec le masque. Enfin, je veux dire, le truc flippant, le mec il a ça chez lui, il fait des crises de folie tous les jours, quoi. Mais c'est, oui, c'est vrai que clairement c'est un truc. Et cette scène est super bien faite, et c'est vrai que quand tu vois le boulot que ça demande.
Oui.
C'est un truc de fou, c'est un truc de fou.
Ouais, c'est une bonne leçon pour n'importe quel scénariste. Écrire le monde entier devient le maître. Là, ça a l'air de rien, la phrase, mais alors derrière la logistique...
Ah, ça, ils le disent tous, hein. Quand ils ont lu le script, il y en a quelques-uns qui ont fait « Oh mon Dieu !»
Bon, et puis pour finir de parler de The End of Time, en arrêtant déjà de parler de Russell T. Davis... Parlons des 20 dernières secondes, celle écrite par Steven Moffat, celle qui met en ligne Matt Smith. Est-ce que ça vous donne envie de voir la prochaine saison ?
Oui.
Ça me rassure. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Doctor Who sans Tennant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attaqué Doctor Who, j'avais attaqué avec Tennant, j'ai appris Eccleston après. Je suis reparti à la saison 1 après. Et déjà, Eccleston, qui est un très bon acteur, hein, mais à côté de Tennant, c'est juste pas comparable. Quoi. Tennant, il a une force maintenant qui est hallucinante. Et Matt Smith, faut avouer que quand même, le petit Junot qu'on n'a pas vu beaucoup, moi je l'ai vu dans 2-3 trucs comme ça, genre second rôle dans Un secret Diary of a Call Girl, où il est juste gentillet, quoi, mais vraiment pas exceptionnel du tout. Moi j'ai un peu peur sur Matt Smith. Moffat, non, lui là, mais c'est bon, les yeux fermés, je lui dis les scripts, c'est bon. Mais Matt Smith, j'avais un peu peur, et c'est vrai que là, il a une énergie sympa qui pour l'instant se différencie pas assez, je pense, de Tennant, parce que bon, là c'était juste un moment d'adrénaline, faut voir dans la longueur, mais il a une énergie qui me plaît bien.
Tu le dis, tu suis Moffat les yeux fermés, moi je suis Moffat les yeux fermés là-dessus, j'ai énormément de confiance en lui.
Je pense qu'il n'a pas choisi pour rien.
Ses choix de casting jusqu'ici dans ses séries précédentes, surtout Coupling, hein, et Jekyll. C'est juste la bonne personne au bon endroit, donc je me fais strictement aucun souci pour Matt Smith s'il l'a choisi lui plutôt qu'une tête d'affiche. Ça m'aurait moins rassuré que ça soit une tête d'affiche, parce que là
ça aurait pu être une décision de BBC,
allez, tu vas me mettre un tel et puis ça va bien marcher. Là non, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu, il a réussi à l'imposer, c'est qu'il y croit, c'est qu'il va donc être capable d'écrire pour lui sans aucun problème. C'est peut-être pas ce qu'il avait en tête au départ. Je crois qu'au départ, il voulait plus Bill Nighy, qui est un acteur qui est plus proche des 70 ans. Donc, c'était pas vraiment la même énergie. Ça aurait fait bizarre, quand même.
Après
Tennant qui meurt dans un déluge d'explosions, retrouver Bill Nighy et son humour très, très stoïque en plein milieu des flammes, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez choquant, visiblement. Mais non, moi, je suis très impatient. Évidemment, de voir la suite. Et comme on l'a dit dans l'article qu'on a publié il y a quelques temps, c'est, on, on connaissait les qualités de Russell T. Davis, quelqu'un qui avait la possibilité de rebondir, de partir sur le long terme, d'écrire aussi des scènes. Au début, j'avais une image où il savait gérer le grand et puis pas vraiment le petit. Mais en fait, quand on regarde bien, tu parlais de Midnight tout à l'heure, on parle des scènes entre Tennant et Wilf. En fait, il savait gérer aussi le petit. Après, c'est peut-être entre deux qu'il avait un petit peu plus de mal. Mais le petit gérait très bien, il savait très bien gérer les moments d'émotion. Moi, je ne me fais pas de soucis sur Steven Moffat, le scénariste. Scénariste, il a un talent monumental.
Il a tout écrit, la femme du docteur.
Voilà, et puis, quelque part, il a écrit quelques-uns des meilleurs épisodes de la série, quoi. Même avec l'épisode Casse-gueule Blink, parce que, départ, il n'y a pas le docteur, démerde-toi. Bon, il fait un épisode magnifique, un des meilleurs de la série, donc j'ai pas de risque là-dessus, mais Steven Moffat, quand il est showrunner d'une série, il écrit tout. Là, il va pas tout écrire, il va falloir qu'il gère aussi avec les idées des autres, comment ça va se passer. Jusqu'ici, c'était le talent isolé, le type qui sort son scénar et qui dit regardez-moi ça,
le
et puis là, ça va être...
Ne retouchez pas les scripts, a priori.
L'un des deux, trois autres.
Voilà, mais est-ce qu'il va réussir à faire ce qu'a fait la force de Davis pendant 5 ans, quoi.
Moi, en gros, pareil, je sais que je suis super enthousiaste et j'avoue que je trouve cette dernière scène assez formidable, presque sous-estimée, parce que je trouve que c'est pas un petit tour de force de passer du fait que la régénération du docteur brise le cœur et qu'on est désespéré et que littéralement, top chrono, 30 secondes plus tard, on est mort de rire devant l'écran. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de très réussi, très enthousiasmant dans cette scène. On va en rester là, on peut juste dire que donc, la saison 5 de Doctor Who, elle arrive dès le samedi 3 avril sur la BBC, qu'on peut capter par satellite en France, donc n'hésitez pas à la regarder, n'est-ce pas. Et puis les spéciaux vont passer aussi prochainement sur France 4, Planet of the Dead passe le samedi 27 mars, je crois bien, et a priori les autres devraient suivre prochainement. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Émilie, merci Dominique,
merci Ivan, merci.
Et à bientôt.